Aujourd'hui, nous avons parlé de notre autorité en Christ, mais j'aimerais vous donner un petit temps pour questions et réponses. Si certaines d'entre vous, vous avez des questions, de prendre un petit peu de temps pour cela. Et après, ce que j'aimerais faire, c'est commencer à nous activer pour cet appel qui appartient aux disciples. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à chasser les démons, à imposer les mains sur les malades, à marcher avec le Saint-Esprit, être à l'écoute du Saint-Esprit et de voir des miracles. Gratuitement, nous avons reçu, gratuitement, nous donnons. Et je parlais à Mélanie, je lui parlais de l'importance de vraiment ne pas avoir peur de faire d'erreurs. Et c'est quelque chose de super important. Si on est paralysé dans la peur parce qu'on dit « Ah, oh, je ne veux pas faire une erreur, et si je fais, et si ça pas... » Non, et on est dans un processus de croissance, d'apprentissage, tous, nous tous. Amen. Jusqu'au jour où on va au ciel, on est en processus d'apprentissage, on apprend, mais ça exige qu'on ne souffre pas de cette paralysie, c'est-à-dire qu'on n'ose pas sortir de la zone de confort parce qu'on a peur de faire une erreur. Amen. La meilleure chose à faire, c'est de dire je suis libre, même si je fais une erreur, c'est pas la fin du monde. Au moins, je suis sortie de ma bulle, au moins, j'ai commencé, amen, à prendre un risque, à sortir de ma zone de confort et à permettre au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous montrer. Et je vais vous dire une vérité, comme par exemple, une fois j'étais en Inde, je faisais une conférence de pasteur et une dame qui est venue vers moi, qui était jeune et elle avait un gros ventre, donc j'ai assumé qu'elle était enceinte et elle vient vers moi, elle prend ma main et elle la met sur mon ventre et puis elle... Je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit « Cogne-lui dans le ventre ». Ma première impression, je dis « Seigneur, elle est enceinte ? Et si je tue le bébé ? Alléluia, non ?» Et il me dit « Mais tape-lui dans le ventre ». Alors j'ai obéi, je lui ai tapé dans le ventre de tout mon gusto, de toutes mes forces. Et vraiment, pour dire la vérité, je ne sais pas si vous avez jamais vu des dessins animés avec Bugs Bunny, des fois quand il y a les gens, il y a les yeux qui font comme ça. Ça avait l'impression que ses yeux sortaient de sa tête. Elle était sur le point de bondir sur moi, mais j'ai fait un pas en arrière, et puis elle m'a regardé, puis elle a tourné, puis elle est partie. Et je ne l'ai plus revue jusque 3 jours à la fin de la conférence. Elle revient pour nous dire qu'elle était sortie de l'hôpital avec un cancer de l'estomac, que les docteurs lui avaient dit « on ne peut rien faire pour vous, alors on vous fait sortir », et puis voilà. Et donc elle s'était dit, elle avait entendu parler de cette conférence, elle s'était dit « je vais à la conférence et si Dieu ne me guérit pas, je vais me tuer parce que je ne veux pas vivre dans l'agonie. » Amen, rester dans l'agonie. Donc, et elle a été complètement guérie. C'était super, n'est-ce pas? Mais vous savez l'erreur que j'ai faite? C'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai pensé, ben ça a marché. J'ai cogné dans le ventre d'une dame, elle a été guérie d'un cancer. Et tout d'un coup, dans mon ministère, j'ai commencé à cogner les gens dans le ventre. Elle ne me regardait pas d'une manière innocente, parce qu'on est des rois à prendre une parole de Dieu et en faire une formule. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle un jour, j'ai vu la lumière, en fin de compte, il me dit « mais arrête, fais-le quand je te le dis ». Voyez, et donc, on fait tous des erreurs, mais on apprend au travers de nos erreurs, des erreurs des autres. Ce qui est important dans ce processus de croissance, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs, de marcher avec le Saint-Esprit, d'être à l'écoute et d'oser sortir de la zone de confort. Si vous voulez rester dans votre petite zone toute douillette de confort, vous n'allez jamais voir des miracles. Et c'est vrai que la chair n'aime pas ça. La chair a peur de faire des choses qui sont pas faciles. La chair n'aime pas sortir de la zone de confort. La chair n'aime pas prendre des risques. Amen. Et on doit être disposé. Ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est pas la fin du monde. Le fait, c'est qu'on a osé faire quelque chose, et Dieu, ça, il est OK avec ça. Je suis persuadée que de temps en temps, il rigole. De temps en temps, il se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'elle fait encore? Pof, elle tape dans le ventre de quelqu'un. Il a dû se marrer quelquefois. Alléluia. Amen. Et ne pas avoir peur de sortir de cette zone de confort. On a l'impression que c'est tout bien, c'est tout. Et des fois, quand Dieu vous dit de faire des choses, ça met mal à l'aise. Parce qu'on se dit, si ça marche pas, qu'est-ce que je vais avoir douillet, je vais avoir l'air stupide. Eh ben quoi, si tu as l'air stupide, c'est pas la fin du monde. Rejoins le club. Amen. Alléluia. Et comme j'ai dit, voyez, quand le jeune homme, quand le Saint-Esprit me dit, crache-lui dans la figure, ben, j'ai craché dans la figure, il n'y a rien qui s'est fait. Je me suis sentie un peu penaude, je me suis sentie, là, bon, ben, d'accord, ben, au moins j'ai obéi. Et c'est l'après-midi, plus tard, quelques heures plus tard, qu'il est revenu, où il était complètement guéri. Amen. Et donc, il y a des choses qu'on ne va pas toujours voir. Des fois, on va exercer notre autorité, guérir des malades, et on va jamais savoir s'ils ont été guéris. Mais au moins, on a obéi. Au moins, on a fait ce que Dieu nous dit de faire. Au moins, on est sorti de la zone de confort. Amen. On a osé être un disciple de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais passer un petit peu de temps avant de vous activer, avant de vous faire sortir de votre bulle de confort, ou je ne sais pas comment on va faire cela, on verra, le Saint-Esprit va nous montrer, mais j'aimerais vous donner un petit temps de questions et réponses. Ok, attends, comment on va faire ça? Oh, il y a deux micros, il y en a un d'autre qui vient. Attends, vas-y, je pose la question.
Alors, comment utiliser l'autorité spirituelle sur nos enfants qui sont majeurs et qui ne sont pas croyants?
Très bonne question. Alors, si ton enfant est majeur, tu n'as plus la même autorité sur eux. Maintenant, ils sont majeurs, ils sont adultes. Quand tes enfants sont à un certain âge, sous ta coupole, dans ta maison, sous ton autorité, tu as autorité sur eux. Dès qu'ils sortent de la maison, qu'ils sont adultes, qu'ils ont maintenant la possibilité de choisir de leur propre chemin, tu n'as plus la même autorité. Tu peux prier, intercéder, imposer la main s'ils vivent à la maison. Tu as une certaine autorité parce qu'ils sont sous son toit. Mais s'ils sont hors de la maison, tout d'un coup, tu n'as plus la même autorité. Tu comprends? Une chose qui est puissante, c'est si une personne est adulte, et elle vit sous ton toit, tu n'as pas autorité sur son corps, mais cette personne doit se mettre sous ton autorité parce que c'est ta maison. Donc, d'une manière, tu peux exiger, lui dire, tu es sous mon toit, si tu vis sous mon toit, tu vas devoir t'aligner à les règles. Amen. Parce que cet adulte est sous ton toit, il ne devrait pas faire du n'importe quoi. Quand il est en dehors, d'accord, il va prendre ses décisions, faire ce qu'il veut, mais sous ton toit, tu as le droit légal d'exiger qu'il se soumette à certaines règles. Tu comprends ce que je veux dire? Exemple, si par exemple, tu es dans ta maison et tu as un fils peut-être qui est adulte et qui amène toutes sortes de trucs à la maison, peut-être des magazines porno ou de la drogue, je ne sais pas, tu as le droit de lui dire tu ne fais pas rentrer ça dans ma maison. Ce que tu fais en dehors, et puis tu peux prier pour lui, intercéder pour lui. Pendant qu'il n'est pas là, tu imposes les mains sur son oreiller et tu prends possession sur certains démons. Amen, je ne sais pas ce qui se passe, tu te fais guider par le Saint-Esprit. Mais s'il est adulte, tu n'as plus la même autorité. C'est comme si le cordon ombilical, hop. Que sinon, Dieu est notre Père. Ça voudrait dire qu'il aurait autorité sur notre volonté et il ne l'a pas. Parce que nous sommes adultes. Et souvent, quand on est enfant, majeur et plus jeune, on ne comprend pas trop les choses. On a une certaine où Dieu, il est miséricordieux, et il fait certaines choses, il laisse passer certaines choses. Mais quand on grandit, de plus en plus on grandit, on est redevable. Tu as répondu à ta question? Vas-y, Sherazade.
Alors moi, c'est par rapport à ma famille. Dieu, il nous dit dans sa parole, si tu crois en mon nom, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais tout à l'heure, vous avez dit, Dieu ne force pas, c'est vrai. Et je me dis que s'ils restent butés jusqu'au bout, en fait, s'ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcés d'être sauvés, même si Dieu l'a dit.
Mm-hmm. Ce verset souvent est mal compris. Tu seras trouvé, toi et ta famille. Ça nous donne l'impression que on peut prier, intercéder et qu'on peut tout d'un coup avoir cette promesse que toute notre famille va être sauvée. Ce n'est pas le cas. Si Dieu ne peut pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Mais Dieu nous a donné des clés. Il nous a donné des outils. Tu peux demander au Saint-Esprit de faire une œuvre dans leur cœur. Tu peux lier, et ça l'intercession. L'intercession où tu pries, et chaque fois que le Saint-Esprit te rappelle, te montre leur visage, t'amène leur nom, tu pries que le Dieu de ce monde qui a voilé leur intelligence, que ce voile soit enlevé. Tu pries pour que Dieu envoie des ouvriers remplis avec la parole de Dieu, l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour leur amener le message d'une manière qu'ils puissent entendre et recevoir. Tu peux prier, demander au Père d'envoyer ses anges. Moi, je vois comment Dieu m'a sauvé. Je vois mon témoignage, comment Dieu m'a sauvé. Et je sais que Dieu est miséricordieux. Et c'est pour ça que nos prières peuvent être puissantes. Où on ne peut pas forcer quelqu'un à être sauvé, mais on peut prier d'une manière régulière pour la personne, pour ta famille, pour ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ces choses-là. Je vais partager un exemple avec toi pour te montrer comment Dieu travaille. J'ai une sœur qui était juge à Aix-en-Provence. Elle est maintenant en retraite. Mais j'ai prié tout le temps, parce que, pour dire la vérité, aucune des personnes de ma famille n'est venue m'écouter prêcher. Ça fait 40 ans que je suis dans le ministère. Et souvent, je vois, quand j'essaie de partager l'évangile, j'ai une de mes... Et j'en parlais, mais quand j'essaie de partager, il y en a une qui est dans le nouvel âge, l'autre qui est dans l'universalisme, une qui finalement, maintenant, est catholique, mais vraiment dans l'esprit, elle a compris vraiment que Jésus est le Sauveur, donc... Mais je priais pour ma famille, et je priais toujours, Seigneur, au nom de Jésus, envoie des ouvriers qui sont remplis d'amour et de la parole, des personnes qu'elles vont pouvoir respecter et écouter. Parce que je savais que j'étais la plus petite. Donc forcément, ben comme Jésus, on a ça en commun, ses frères et sœurs ne le reconnaissaient pas, ils ne l'aimaient pas et ne le respectaient pas. Et je priais cela. Et un jour, je faisais une conférence œcuménique, c'était catholique avec des catholiques charismatiques et des protestants. Et je faisais cette conférence et je me rappelle, c'était Michael Koulianos et il parlait pas le français. Donc il me dit, Audrey, je vois une bonne sœur là qui est assise là-bas. Il y a comme une lumière autour d'elle. Pourrais-tu lui parler, demander de venir me voir? J'aimerais lui parler. Donc j'ai été là, sous le chapiteau, j'ai été voir cette bonne sœur, lui ai demandé de venir dans la salle qui était à l'arrière. Et puis, Michael Koulianos lui a parlé, j'ai interprété. Bref, le lendemain, c'est mon tour de parler sur la scène, d'enseigner. Et à la fin, je parlais là de ma sœur à Aix-en-Provence qui était juge. Et cette bonne sœur, à la fin, vient vers moi, elle me dit, « Votre sœur, elle s'appelle comment ?» Je dis, « Elle s'appelle Stelina Boresi. » Stelina Boresi ? Elle me dit, mais j'ai prié pour elle et je lui ai parlé de Jésus à combien de fois de raisons? Combien de fois j'ai été lue? Je lui donne des livres, je prie pour elle, je lui parle de Jésus. Et tout d'un coup, j'ai vu ce que Dieu, ma sœur qui était plutôt côté catholique, comment est-ce que Dieu a utilisé une bonne sœur remplie de l'Esprit, remplie du Saint-Esprit. Et c'était cet ouvrier. Et Dieu m'a permis de voir comment il opérait. En arrière-plan, alors que je priais, je ne voyais rien du tout. Et maintenant, cette sœur, nous avons beaucoup plus d'affinité. Elle me demande de prier pour elle. On prie ensemble, on parle de Jésus. Elle va à Jérusalem bientôt. Donc, on voit, souvent, on ne voit pas les choses. Mais pour nos bien-aimés, on n'a pas cette certitude qu'ils vont être tous sauvés parce que leur mentalité, leur choix, leur volonté est en jeu. Mais on peut prier d'une manière efficace pour permettre à Dieu d'avoir tout entre les mains. Vous vous rappelez ce que j'ai dit avant l'autorité? On est un royaume de sacerdoce, de sacrificateur. C'est-à-dire que dans la prière, dans l'intercession, on découvre la volonté de Dieu et on déclare la volonté de Dieu. On prie, on déclare la volonté de Dieu. Quand on a, et en tant qu'autorité, on exerce notre autorité. Alors tu peux prier que cet esprit d'islam qui est sur ta famille soit lié. Et tu vas le prier plus qu'une seule fois. Seigneur, les mensonges, je déclare que ce voile de mensonge, ce voile d'incrédulité, ce voile de soit enlevé de leurs yeux. Et Dieu envoie des ouvriers, et le Saint-Esprit les attire, leur travaille dans le cœur. Donc c'est cette manière de prier pour ta famille. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Alléluia.
J'en profite oui. Pendant que je viens avec le micro. Tu avais dit pour, tu sais, la parole Réma, avec nos paroles, on peut l'annuler, entre guillemets. Enfin, quand tu as reçu la parole de foi, et puis si tu dis autre chose avec ta bouche, tu l'annules. Et moi, par exemple, dans ma tête, je me suis toujours dit, le Réma est tellement dépendant plus de Dieu que de moi, et il est fidèle à sa parole, que je me suis des fois reposée dans le fait de dire, même si je suis fatiguée, découragée, que je dis n'importe quoi avec ma bouche, c'est mon excuse, c'est mon péché, j'ai demandé pardon tout à l'heure, mais quand même je pose ma question, je me suis dit, ben, est-ce que le Réma n'est pas éternel et Dieu a dit, donc maintenant Dieu a dit...
Vous vous rappelez voilà. De Zacharie. Zacharie et Élisabeth, sa femme. Zacharie est un homme de Dieu, sacrificateur dans le temple. Il va dans le temple et il a une apparition. L'ange Gabriel lui apparaît, il lui a dit, ta femme va être enceinte dans son vieil âge et tu vas l'appeler Jean, amen. Et Zacharie, qui est un homme de Dieu, il connaît le Torah, le Tanakh par cœur. Il connaissait l'histoire d'Abraham, il connaissait les miracles de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais comment est-ce possible? Et l'ange lui a fermé la bouche. Et je suis persuadée que ce n'était pas une punition, mais c'était un acte de miséricorde pour permettre au miracle de s'accomplir. Parce que si Zacharie, avec l'incrédulité dans sa bouche, parlait, il aurait le puissance au travers, parce que la vie et la mort sont dans la puissance de la bouche, il aurait même le potentiel d'arrêter le plan de Dieu. Et c'est pour cela, plus tard, je l'ai compris. Ce soir-là, toute seule dans mon salon, je ne savais pas encore cette vérité. Et quand le Seigneur m'a dit, il me dit, ne dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes qui ont la foi. Et ne leur demande pas de prier pour toi, mais de se réjouir pour ta guérison. Je n'ai pas compris, mais pourquoi? Parce que vous voyez, la notion qu'on a souvent, c'est quand, par exemple, on apprend qu'il y a le cancer, on veut commencer une chaîne de prière avec 1000 personnes. On va sur les réseaux sociaux, prier pour un tel, là, 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 et tout d'un coup, 2000 personnes vont prier. J'ai appris une leçon. Il vaut mieux 5 personnes qui sont dans la foi que 1000 personnes qui sont dans l'incrédulité. Parce que tout le monde ne prie pas de la même manière. Tout le monde ne marche pas par la foi de la même manière. Et je préfère avoir 2 personnes qui prient et qui se réjouissent dans la foi que 1000 personnes qui vont prier et parler de choses, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dieu qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et pourquoi est-ce que Dieu, je vois quand il a fermé la bouche de Zacharie, ce n'était pas un acte de colère pour le punir. Sinon, il aurait dit, arrête-toi, hop, je tourne, je vais trouver quelqu'un d'autre. C'était un acte de miséricorde pour le protéger de lui-même, comme le Saint-Esprit m'a dit de le dire à personne, pour me protéger de moi-même, afin qu'il puisse amener le miracle, que de ma bouche ou de sa bouche ne sortent pas des paroles qui annulent la puissance de Dieu. Et vous savez, pendant ces 9 mois et demi, personne ne savait que ce qui se passait dans mon corps, comme l'oncologue, mon mari, et 4 autres personnes qui, je savais, étaient des paroles des personnes de foi. Parce que personne ne savait, personne ne demandait « Aujourd'hui, comment vas-tu, Audrey? On prie pour toi. Ah, » ah, ah. Non. Personne ne... Et je n'étais pas tentée, parce qu'il y a des jours où j'étais forte, puis il y avait des jours où j'étais fatiguée. Et quand on est fatigué, on est un peu plus vulnérable, n'est-ce pas? Donc je n'étais pas tentée de laisser toutes sortes de choses sortir de ma bouche. Des fois, on a besoin de se protéger de nous-mêmes. Et Dieu est bon et Dieu est miséricordieux. Amen. Amen. Alléluia. Il y avait une autre question. Voilà.
Oui, comment sortir de l'incrédulité? Parce qu'il y a ce verset qui dit « Si tu ne doutes pas dans ton cœur », il y a un autre verset qui dit « Si vous doutez, ne, vous n'allez rien recevoir parce que vous êtes comme... »
Alors, monsieur, très bonne question. Ma question est « Viens-tu à cette église ?»
Non.
Non. Parce que... Ah, je suis désolée. Parce que c'est ce que je vais parler, je pense, alors que je prêche, que je j'enseignais.
Tu seras là demain.
Ah, tu seras là demain.
Ils sont là pour le week-end.
Alors, si c'est OK, demain, tu auras la réponse.
Question.
En profondeur. Alors, j'étais là dans la classe, après-midi, j'ai reçu comme... le Seigneur m'a dit, c'est, tu vas parler de ça demain. Alors
demain.
Vas-y.
Moi, j'en ai deux, mais la première, c'était dans... je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit de ne pas se presser d'imposer les mains. Mm-hmm. Et la question, c'était, quand on impose les mains, est-ce qu'il y a un échange, un transfert, quelque chose qui se passe? Voilà.
C'est une très bonne question. Dans ce sens-là, je pense qu'il parle... Parce que l'imposition des mains avait, dans la Bible, il y a plusieurs... raison, où il y a plusieurs, comment je pourrais dire, quel est là le mot que je cherche, plusieurs choses qui se font. Ils imposaient les mains pour transférer une bénédiction, une onction, et aussi on impose les mains sur les malades. Il m'est arrivé, je me rappelle une fois, j'étais en Éthiopie, et j'enseignais sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et à la fin, j'ai donné une invitation pour ceux qui voulaient être baptisés. Il y a toute une sorte de personnes qui sont venues. Et je passais, j'ai imposé les mains. Et puis, il y avait cette personne. À chaque fois que je passais, je n'arrivais pas à imposer les mains sur elle. J'étais là et j'ai imposé les autres. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, n'impose pas les mains, elle a un démon. N'impose pas les mains sur elle, elle doit d'abord être délivrée. Et elle avait, son histoire était quelque chose de dramatique. Elle avait des coupures sur le visage, elle était dans les rues, elle avait été sacrifiée, elle était la pauvre gamine, elle en avait vu tellement. Mais là, je savais que je ne devais pas imposer les mains pour le baptême dans le Saint-Esprit, parce que d'abord, elle devait être délivrée, puis elle devait être sauvée, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Donc, je crois que Grandine, n'imposez pas les mains, parce que... C'est quelque chose de sacré, l'imposition des mains. Souvent, je vois dans l'église charismatique ou dans l'église en général, il y a certaines choses qui sont dans la Bible des choses sacrées, que l'on prend un petit peu à la légère, que l'on fait un peu comme on impose les mains sur tout le monde et on donne des paroles à tout le monde et personne, et tu vois un peu. Et on ne voit pas cette chose comme quelque chose qui est vraiment quelque chose de précieux, de sacré, qu'on impose la main sur une personne. Mais la Bible aussi nous dit d'imposer les mains sur la malade. Donc si, dans ce cas-là, on impose la main sur le malade, ou si tout d'un coup on a cette conscience que ce n'est pas une maladie, comment je dirais, naturelle, mais que c'est un démon, parce que des fois, quand dans le ministère de Jésus, quand il avait affaire à des maladies, des fois, c'était un démon qui devait, un esprit d'infirmité qui devait chasser. Des fois, c'était une personne qui devait recevoir le pardon parce qu'ils avaient péché, ils étaient dans la condamnation et ils ne pouvaient pas recevoir la guérison. Une fois, Jésus l'impose les mains, une autre fois, il donne une parole, une fois, il leur dit d'aller se tremper dans la rivière. Bref, Jésus ne faisait jamais les choses. Mais dans l'imposition des mains, selon ce que Jésus nous a dit, s'il y a des malades, on doit exercer notre autorité et par l'imposition des mains, on peut transférer cette puissance de guérison. Donc, c'est à nous d'être sensibles. Je me rappelle une fois, c'était pendant le Covid et j'allais à la poste et en sortant de la poste, je vois ce monsieur qui boite, d'une personne assez âgée qui boite, avec une, on voit qu'il est dans la douleur. Et je vois ce monsieur, je m'arrête, il attire mon attention, donc je savais qu'il y avait quelque chose. Je le vois, je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh, j'ai un problème dans la hanche, dans le genou, je suis dans la douleur, je ne peux pas marcher. Je dis, je peux prier pour vous, monsieur? Il me dit, ben oui, bien sûr. Je vais pour m'approcher vers lui, pour imposer les mains, parce que c'est ce qu'on fait, on impose les mains sur... Il me dit, ah mais non, venez pas près de moi. Bien sûr, on connaît, il y avait le Covid. Et puis dans moi-même, presque, je me dis, mais alors tu veux pas que j'impose les mains sur moi, bah, tant pis. Et le Saint-Esprit me dit, mais ne me limite pas. J'ai dit, ok. Et donc j'ai dit, ok. Et j'ai prié, j'ai exercé l'autorité pour cet homme à cette distance. Je dis, au nom de Jésus, je commande à cette hanche, à ce genou d'être guéri, douleur, tu pars, bref. Je dis, maintenant, monsieur, commencez à bouger votre hanche, bougez. Et l'homme était guéri. Il dit, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus. Et donc, une fois de plus, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une formule, ce n'est pas, comme on dit, une taille pour tout le monde. C'est d'être marché en intimité avec Dieu. Et des fois, il va te dire, impose les mains. Des fois, il va te dire, exerce l'autorité, chasse un démon, je veux dire. Une autre fois, il va te dire, non, n'impose pas la main sur cette personne. Et donc, mais dans le cas de ce que tu dis, je ne pense pas que c'était dans le cadre de l'imposition des mains sur les malades, que c'était plutôt imposer les mains pour ordonner quelqu'un dans le ministère. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Il dit, ne soyez pas rapide à ordonner quelqu'un dans le ministère. Pourquoi ? Parce que même Paul nous dit, faites attention si quelqu'un est trop jeune, il va tomber dans l'orgueil. Okay. Ne lui donnez pas des places de responsabilité. Donc, avant, on voit Paul et Barnabé, avant qu'ils soient ordonnés et envoyés, il avait été pendant un petit bout de temps. Et c'est là, ils ont jeûné, prié, le Saint-Esprit leur a dit, séparez-moi Paul et Barnabé pour l'œuvre du ministère que j'ai pour eux. Donc, c'est dans ce cadre où on n'est pas rapide à imposer les mains sur quelqu'un, à les envoyer dans le ministère. Il doit y avoir quelque chose. On sait que c'est le Saint-Esprit qui nous dit d'ordonner, d'envoyer une certaine personne pour l'œuvre du ministère. Amen. Okay. Et de faire attention de ne pas imposer les mains sur tout le monde, avoir des paroles pour tout le monde. Parce que des fois, ça devient un peu la zizanie, là. Mmh. Hein ?
C'est ça.
Être guidé par le Saint-Esprit. Mmh. Tu as répondu à la question ?
Oui, oui, merci, merci. Et l'autre question, c'était l'autorité sur la famille.
Le quoi ?
L'autorité qu'on a sur notre famille. Ben, en fait, quand j'allais chez ma tante ou chez ma grand-mère, je disais que voilà, je prenais autorité sur les lieux. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce que jusqu'où l'autorité, elle peut aller ? Je veux dire, parce qu'on a la volonté. Il y a des choses que je peux voir.
Tu n'as pas l'autorité sur la maison de ta grand-mère, ta tante et tout le monde. Par contre, je donne un exemple. Je donne un exemple concret. J'ai une de mes sœurs, elle est dans le New Age, dans le Nouvel Âge, les cristaux, les bouddhas, et tout ça. Et j'ai vraiment, au cours des années, elles savent toutes, mes sœurs, mais elles savent toutes ce que je fais, qui je suis et tout ça. Mais elles n'ont, à première vue, peut-être qu'elles l'ont fait en secret à l'internet, je ne sais pas. Mais elles ne sont jamais venues en public m'écouter. Mais cette fois-ci, je me rappelle, je suis allée chez ma sœur pour passer une semaine, pour quelques jours avec elle. Parce que j'ai vu que pour atteindre souvent les membres de notre famille, ils ne sont pas forcément vouloir nous écouter prêcher. Je ne sais pas comment expliquer cela. Parce qu'ils nous connaissent. Ben, c'était le même cas avec Jésus. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Ses frères et ses sœurs ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Ils l'ont ridiculisé, ils l'ont rejeté. Et bon, donc on voit là, c'était le cas de Jésus. Amen. Et donc, je ne prêche pas à ma famille. Je ne leur... À chaque fois et opportunité, je ne leur amène pas l'évangile, mais je cherche l'occasion, quand je peux, d'amener quelque chose, de les aimer. Ça, j'essaie de faire de les aimer. Quand je peux, je vais les visiter. Et donc, j'allais chez ma sœur pour passer quelques jours chez elle. Et je savais, la chambre d'amis, il y avait des bouddhas partout, des cristaux, et toi, tu te sentais presque... Et de la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Et tout d'un coup, j'ai eu cette prise de conscience que le Saint-Esprit me dit, mais ne sais-tu pas que celui qui est en toi est bien plus grand que tout ça, là ? Et tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai commencé à faire pendant la nuit ? À louer le Seigneur, à prier en langue, d'Ariaba chante et à chanter en langue. Puis après, le matin, je n'avais pas dormi, j'étais sur le balcon. Elle vit dans un appartement où il y a comme des HLM un peu, tu vois. Donc, il y a des balcons partout, des bâtiments partout. J'étais sur la terrasse, et Bariachan chantait en notre langue louée. Il y avait une telle présence de Dieu, là, que j'avais amené l'atmosphère au lieu d'aller de prendre autorité, parce que j'aurais pu faire ça, je prends autorité sur Bouddha. Je n'avais pas d'autorité de prendre, parce que c'est sa maison, c'est elle qui décore, c'est elle qui met ce qu'elle veut. Je ne vais pas prendre autorité sur sa maison, mais je peux amener la présence de Dieu dans sa maison. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à louer le Seigneur, à chanter en langue, à prier en langue. Mais j'étais vraiment, j'étais sur le balcon en train d'avoir un temps avec le Seigneur. Mais je m'en fichais si tout le voisinage entendait. Ils avaient besoin de l'entendre de toute façon. Et ma sœur qui avait des problèmes, je crois qu'elle avait un problème de hanche et de genou, qu'elle souffrait de fibromyalgie. Elle me dit plus tard, elle s'amène dans le... Elle se réveille, bien sûr, elle est là dans le salon. Puis elle me voit là, sur le balcon, en train d'avoir mon petit temps avec le Seigneur. Et elle, plus tard, elle me dit que quand elle s'est approchée, toute la douleur qu'elle avait dans la hanche et le genou a complètement disparu. Et de là, ça a été comme une porte ouverte où j'ai commencé, non pas d'une manière agressive, j'ai commencé à lui parler en me disant, « Ouais, tu sais, c'est la présence. » Je lui ai amené des petits trucs pour le mettre, presque lui mettre l'eau à la bouche. Après, je lui dis, tu sais, j'ai fait un petit épisode pour le 1er avril où on a mis toutes les petites blagues à chaque fois que je fais, tu vois, quand je fais de la télé, il y a toujours ce qu'on appelle les bloops, où on fait des erreurs, où on est des trucs. Et on avait fait une petite vidéo avec toutes mes grimaces et tous mes trucs pour faire rigoler les gens. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai fait une petite vidéo, c'est marrant. Là. Puis on a regardé ça ensemble, on a rigolé. C'était ma manière, en fin de compte, au lieu d'arriver, d'exercer l'autorité sur les Bouddhas, sur les cristaux, sur l'aspéride, j'ai amené la présence de Dieu au travers, au lieu d'être dans la peur, dans la réaction, dans l'intimidation, de dire, non, attends, celui qui est en moi est bien plus grand que tout ça, là. Amen. Et tout d'un coup, il y avait une telle joie, il y avait une telle paix dans sa maison que même ma sœur l'a ressenti. Amen. Ça répond à ta question un peu?
Oui.
Salut.
Alors, merci déjà pour le message. J'avais une question pour essayer de bien comprendre l'autorité. Vous enseignez donc le lien entre le fait d'entendre la voix de Dieu pour exercer l'autorité. Mmh. Mais je me dis, les disciples, ils ont reçu l'autorité avant d'avoir le Saint-Esprit, donc ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu. Mm-hmm. Alors comment ça fonctionnait, du coup?
Mais en fin de compte, on a déjà cet avantage sur eux. Mais en fin de compte, ils avaient marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils marchaient avec eux, ils l'ont vu, ils l'ont regardé, ils l'ont observé. Ils ont marché avec Jésus, ils ont vu... Et Jésus, lui, bon, il était toujours en communication pour faire. Donc, il leur a donné l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades. Et il le faisait de cette manière. Et ils allaient, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons. Et ils sont revenus ébahis. Amen. Mais pour toi et pour moi et pour nous, nous avons cet avantage qu'on a le Saint-Esprit qui va nous guider, nous avertir, parce que c'est exactement comme ça que Jésus opérait. Peut-être pas les disciples, parce qu'eux, ils le faisaient, mais demain, je ne sais pas si tu seras là demain, je vais en parler, où il y a eu des moments où, alléluia, les disciples n'ont pas pu guérir. Et ils étaient là en disant, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et Jésus est venu, est intervenu. Donc, ils faisaient l'œuvre du ministère sans automatiquement de l'aide du Saint-Esprit par rapport à ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce que Jésus leur avait enseigné, ce qu'il leur avait démontré. Amen. Ils avaient, tu te rends compte, ils avaient Jésus, un coach avec eux. Et ils ont vu ce que Jésus faisait, comment il le faisait, comment il opérait. Donc, ils opéraient selon ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient appris. Ils exerçaient cette autorité dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est vrai qu'il y a des cas, il y a des moments où on a besoin. Et je dois... C'est une très bonne question, je dois dire, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas forcément besoin d'entendre le Saint-Esprit. Mais comme j'ai parlé, quand j'ai vu ce chien, ben, je n'avais pas besoin d'entendre... voilà, je savais, hop, j'ai autorité contre ce chien qui a la rage. Amen. Il y a des moments où je vois... il y a une personne qui a besoin. Si je ne reçois rien du Saint-Esprit, ben, je fais ce que je sais de faire. Mais il y a eu des moments où je remercie Dieu que j'avais... J'avais le Saint-Esprit. Par exemple, une fois, une dame dans un fauteuil roulant. Et c'était à la c'était à la bordure, la frontière suisse. Et cette femme, dans un fauteuil roulant, son mari l'avait battue et il lui avait compromis la colonne vertébrale. Il y avait un nerf qui s'était cassé, il a brisé, bref. Elle était paralysée. Les docteurs lui ont dit, madame, vous allez vivre comme ça pour le reste de votre vie. Vous êtes maintenant, vous n'allez plus jamais pouvoir marcher. Donc, elle est venue déprimée dans la douleur, dans ce fauteuil roulant. Voyez, sans rien d'autre, comme les disciples, j'aurais peut-être été... la première réaction, c'était de dire, oh, je vais aller imposer les mains sur elle et la faire sortir du fauteuil. Mais à ce moment-là, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me parle, qui me dit non. Avec elle, ce sera progressif. Parce qu'elle doit d'abord se lever à l'intérieur avant de se lever à l'extérieur. Et de là est né tout un message. D'avoir cette... Parce que très souvent, les gens, et souvent, on voit que la maladie est devenue tellement quelque chose de courant, on l'a accepté, on nous a appris que la maladie fait partie de la vie. Quel oxymoron, on pourrait dire. Quelle contradiction. Mais on nous a... On est habitué tellement maintenant, c'est devenu tellement familier qu'on accepte la maladie. On se résigne, on accepte. Et pour elle, les docteurs lui ont dit « vous ne marcherez plus jamais ». Elle était sur le point d'accepter cela comme « ben voilà, c'est ça ». Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a montré exactement quoi faire et comment faire. C'est-à-dire que je devais lui montrer qu'elle ne devait pas accepter, mais elle devait se lever. Donc j'ai passé un petit moment avec elle pour lui montrer ce qu'elle devait faire. Comment avoir cette colère sainte qui refusait d'accepter cette condition et comment, à partir de ce moment-là, par la foi, prendre sa guérison. Et il m'avait dit avec elle, ce sera progressif. Et donc, je lui ai enseigné. C'est vrai que 2 mois plus tard, elle m'a envoyé un email en me disant qu'elle ne marchait pas, mais qu'elle bougeait ses doigts de pied. Et je lui ai dit, alléluia, c'est un progrès. Et quelques mois plus tard, presque 1 an plus tard, depuis la première fois où je l'ai vue, elle est venue vers moi en marchant. Et donc, si j'avais fait simplement, ben oui, j'ai l'autorité, je vais commander, je vais la sortir, je vais imposer les mains, ben, je me serais peut-être plantée. Mais merci, j'avais le Saint-Esprit où j'ai pu entendre et savoir quelle était la situation. Et on voit que Jésus, pourquoi crois-tu, quand on lui a amené cet homme qui est descendu du toit, tu te rappelles ? Les 4 amis qui ont amené un paralytique, pourquoi est-ce que Jésus l'a regardé, lui a dit « Homme, tes péchés sont pardonnés ». Ça n'avait aucun sens, parce qu'il n'a pas besoin de pardon, il a besoin d'être guéri. Parce que Jésus savait par le discernement, par le Saint-Esprit, que cet homme avait forcément été dans le péché, avait commis un péché tel qu'il ne lui serait pas capable de recevoir la guérison. Il devait d'abord recevoir le pardon avant de pouvoir recevoir. Quand tu regardes la Bible de près et que tu étudies toutes les choses, tu vois des nuances et des choses que l'on ne voit pas à première vue. Pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait ? Guidé par le Saint-Esprit. Donc, on a cet avantage qu'on a le Saint-Esprit en nous qui nous guide. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Les disciples n'avaient pas cela. Ils ont simplement fait... d'exercer l'autorité, imposer les mains sur les malades, mais c'était avec l'autorité temporaire que Jésus leur a donné, parce que Jésus était là sur la terre. Amen. Donc, il y a certaines différences avec cela. Ça répond à ta question, j'espère. Ouais. Alléluia. Alors, oui, une autre question, et après, j'aimerais qu'on puisse activer...
Oui, en fait, j'ai 2 petites questions... Est-ce qu'on a une autorité sur les sceptiques ? Parce que j'ai l'impression, parfois, quand on propose à des gens la prière, ils peuvent accepter par politesse et sans vraiment forcément avoir la foi que Dieu guérit. Donc ça, c'était ma première question. Voilà. Est-ce qu'on a une autorité sur les
Alors,
gens qui...
pour te dire la vérité, il y a des différences. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui n'ont pas de religion en eux. Ces gens, ça peut être facile de les guérir. Mais ceux qui ont, et on en parlera demain, ça fait partie un petit peu de ce que je vais partager demain. Quand des gens sont encombrés, rappelez-les entre les 2 oreilles. Quand les gens sont chrétiens, mais chargés avec tout un tas de fausses traditions et des faux enseignements et tout ça, ben Jésus a dit, les faux enseignements, les fausses traditions, ça annule la parole de Dieu. Et donc, moi, je vois si des gens n'ont pas vraiment beaucoup de notions de Dieu, ils ne savent pas trop rien au sujet de Dieu, c'est beaucoup plus facile de les guérir parce que tu peux les guérir sur ta foi. Mais quand tu fais face à des gens qui sont supposés avoir la foi, qui sont des chrétiens, mais qui sont remplis avec de l'incrédulité ou des faux enseignements, c'est beaucoup plus difficile de les guérir. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Souvent, on limite prier pour les malades dans l'église. Quand en réalité, prier pour les malades devrait se faire primairement en dehors de l'église. Primairement, c'est un mot, ça ? Premièrement, ça devrait se faire en dehors de l'église parce que imposer les mains sur le mal, prier pour les malades, c'est vraiment un outil, une arme pour attirer. Amen. C'est comme Kenneth Hagin dit, c'est comme la clochette pour le déjeuner. On amène la clochette, ding, 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 venez manger, ça attire les gens. Amen. Et des fois, certaines guérisons les plus faciles que j'ai vues, c'était en dehors de l'église, des gens qui n'avaient aucune notion de Dieu. Et on leur dit, ben, Dieu est bon, Dieu guérit. Est-ce que je peux prier pour toi ? Et puis, amen. Et ça marche. Par contre, on essaie de prier pour des gens qui ont des trucs entre leurs deux oreilles, qui ont des incrédulités, des faux enseignements, des appréhensions, tout un tas de trucs, et qui se disent chrétiens, mais qui ont, eh ben, avec leur fausse mentalité, des fois, ils empêchent cette puissance pour recevoir cette puissance. Et je pense aussi qu'il y a une certaine redevabilité. C'est comme dans une famille. Tu as des enfants, quand ils grandissent à un certain stade, ils sont plus redevables à être responsables et à croire pour eux-mêmes. Je me rappelle, Kenneth Hagin disait une fois qu'il avait un fils et une fille. Il dit qu'il priait pour son fils, ses enfants. Il a prié quand ils étaient malades. Par exemple, il parlait de son fils, Kenneth. Quand il était malade, en tant que papa, il priait pour son enfant. Mais tout d'un coup, parce que bien sûr, ils l'ont. Kenneth Hagin était un homme de foi, donc les enfants ont été élevés dans la foi. Amen. La foi le matin, la foi à midi, la foi le soir. Et un jour, Jésus a parlé à Kenneth Hagin, il lui a dit, « Maintenant, ton fils en sait assez. » Il avait, je crois, 13 ou 14 ans. Il dit, « Maintenant, ton fils en sait assez. Il peut recevoir maintenant la guérison sur sa propre foi et pas sur la tienne. » Et donc, Kenneth Hagin, en fin de compte, a dit, « Ah, maintenant, je vais le laisser faire et croire pour ses propres besoins, pour sa propre guérison. » Parce qu'apparemment, dans l'esprit, il était à un stade où il en savait assez, il en avait vu assez, il en connaissait assez pour marcher par sa propre foi. Et c'est important, parents, dès le début, d'enseigner les enfants dans la foi, d'exercer leur propre foi et de ne pas tout faire pour eux. Amen. Un enfant, pour leur enseigner la foi, tu veux, et ton enfant vient et te dit, maman, je veux un nouveau, je ne sais pas ce qu'il veut, votre enfant, un jouet, ou il veut un nouveau manteau, ou il veut quelque chose. Je veux une tablette. Maman, je veux une tablette. Elle dit, ben, tu sais quoi, tu vas prier, tu vas demander Dieu, et tu vas exercer ta foi pour ta tablette, et tu verras que Dieu va honorer ta foi. On commence à enseigner à nos enfants d'exercer leur foi. Ne me regardez pas d'une manière si bizarre. Amen. Et donc, dans l'esprit, mais moi, on ne connaît pas tout. Mais Dieu sait les personnes, les niveaux à laquelle ils sont. Et comme vous n'allez pas peut-être juger ou gérer vos enfants l'un de la même manière que l'autre, parce qu'ils sont à des niveaux différents, ils ont des personnalités différentes, ils font des choses différentes. L'un est capable d'être corrigé de cette manière, l'autre ne peut pas. Amen. Moi, mon frère, il lui fallait une fessée pour être corrigé. Et moi, mon père pouvait me redonner un regard, c'était fini. Donc Dieu, il est comme ça. Il ne nous met pas toutes sur la même comme ça. Il sait où on est, ce qu'on fait, ce qu'on est capable de croire, de gérer, de faire. Mais pour répondre à cette question, prier pour les gens qui sont dans l'incrédulité, ben, bonne chance. Parce que souvent, comme j'ai montré, amen. Mais c'est pour ça qu'on se laisse guider. On n'a pas les réponses à toutes les questions. On ne sait pas tout ce qui se passe dans le cœur de la personne. Dieu seul sait ce qui est dans le cœur de la personne. Alors on se laisse guider. Moi, il m'est arrivé, il y a des personnes qui m'ont demandé, là, j'ai dit non, je ne prie pas pour toi. Non, je suis désolée, je ne prie pas pour toi. Personne, quoi ? Audrey, tu ne vas pas prier pour moi ? Ben non, je ne vais pas prier pour toi. parce que je n'avais pas le témoin à l'intérieur, je savais, je ne devais pas prier pour cette personne. Amen, parce qu'une des raisons, c'est qu'elle a eu tout le monde prier pour elle. Tout le monde a prié pour elle, et puis tout le monde prie pour moi, et je ne suis toujours pas guérie. Serait-il possible que le dénominateur commun, ce soit toi? Et que peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle devait changer avant de pouvoir recevoir sa guérison. Amen. Donc c'est... Alléluia. J'espère que ça répond plus ou moins à cette question.
Oui, merci.
Mais je pense que demain, quand on parle de la foi, dernière question, et après on arrête.
Pardon, du coup, et je voulais juste savoir si une infirmité ou une pathologie peut rester un temps pour révéler la gloire de Dieu à un moment précis. Est-ce que, par exemple, on peut ne pas être guéri pendant un temps pour que cette guérison-là touche d'autres personnes à un temps donné?
Donne-moi un chapitre, un verset qui supporte cette théologie.
C'est pas une théologie, c'est ma question. Je sais pas du tout.
Ben non, il n'y a rien. Parce que la Bible dit que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et aujourd'hui, c'est le salut, c'est plus que le salut, c'est la guérison. Parce que le salut et la guérison ont été payés sur la croix, même moment, même endroit. Le problème, c'est que souvent, la théologie des gens dans leur cœur, dans leur tête, comme je viens de montrer, ce qui est entre les deux oreilles, c'est ce qui empêche la puissance d'activer, de fonctionner, de guérir. Amen. Donc, il y a ça aussi. Et les gens qui disent, un jour, il y a un jour où Dieu va me guérir. Non, on doit savoir que la guérison a déjà été accomplie, temps passé, sur la croix. Maintenant, c'est à nous de la recevoir. Amen. En exerçant l'autorité et en recevant Matthieu 11, 23 et 24. Amen. Mais demain, si le Seigneur me le permet, à moins que ça change, mais je vais vraiment parler des choses qui empêchent votre foi de fonctionner. Les choses qui vont vraiment, qui empêchent, et je ne parle pas à des... Parce que souvent, je vois guérir les incroyants, ceux qui n'ont pas de préconçus, ceux qui ne savent rien. C'est souvent plus facile, parce que des fois, ce sont les dons de guérison, ou des fois, c'est ta propre foi, bien sûr. Amen. Et donc, les dons de guérison, ce sont des dons pour attirer les incroyants vers le cœur du Dieu. Amen. C'est sa façon c'est un langage d'amour, en fin de compte. Donc, ces dons de guérison, ce sont des armes spirituelles pour attirer les gens vers le cœur de Dieu. Alléluia. Mais le peuple de Dieu, et on doit faire une distinction entre le peuple de Dieu et les incroyants. Ce sont deux choses différentes. Le peuple de Dieu, alors qu'on grandit, Dieu s'attend à ce qu'on marche en bonne santé, qu'on exerce autorité, qu'on agisse comme un disciple. Mais un incroyant ne sait pas. Comment est-ce qu'il va savoir que Dieu l'aime? Au travers du ministère de guérison, au travers des dons de l'esprit. Quand vous allez vers une personne, que vous leur donnez une parole de connaissance ou une parole de sagesse, que vous leur révélez des choses que vous n'êtes pas censé savoir, ça va attirer leur attention. Quand vous les guérissez au travers des dons de guérison, ou même en exerçant l'autorité, amen. Et en imposant les mains sur les malades et qui sont guéris, ça attire leur attention. Ils se disent, waouh, Dieu m'a guéri. Et ça ouvre leur cœur pour que vous puissiez partager un message. Mais je pense que le peuple de Dieu, souvent, le peuple de Dieu a souvent été paresseux dans ce sens-là. Où on a simplement cru, c'est les hommes et les femmes de Dieu qui sont censés prier pour tout le monde. Quand en réalité, on est tous appelés à grandir et à être responsabilisés, c'est-à-dire à marcher par la foi, à vivre par la foi et arrêter d'être des bébés avec le pouce dans la bouche qui attend qu'on les nourrisse. Et le problème, c'est que souvent, il y a eu, et je dois le dire, c'est pas souvent la faute des chrétiens, c'est la faute souvent des responsables. Des gens qui ont eu de l'égocentrisme en disant « Ouais, je suis celui qui impose les mains. Je suis, regardez-moi, je suis... » celui, et personne d'autre est censé poser les mains sur les malades. Il y a eu cette théologie dans certaines églises où le chrétien n'était pas censé marcher dans la guérison où d'un côté la maladie c'est une vertu, ou de l'autre côté c'est seulement le pasteur qui est censé imposer les mains sur les malades. Tout ce genre de fausse théologie a fait que le peuple de Dieu a été assujetti à la maladie et tout d'un coup rentre dans cette mentalité de victime en attendant que quelqu'un ait cours de conférence à conférence. Parce que quand on regarde vraiment, c'est intéressant dans le livre de Jacques, on voit dans la Bible, amen, que l'Église était une Église en bonne santé. Il n'y avait que des cas ici et là. Amen. Même on voit Paul, il parle de Trophime, il lui dit « Ouais, j'ai dû laisser Trophime malade à Milet. » Mais c'était une exception, ce n'était pas la règle. L'Église, les chrétiens étaient censés grandir, comprendre, marcher par la foi, recevoir les bénédictions de Dieu, marcher et devenir des disciples qui, amen, prier pour les malades, imposer les mains sur les malades. Parce qu'on voit dans Jacques, il dit, si quelqu'un est malade, et cette parole malade, il dit, et qui ne peut pas s'aider lui-même, ça nous révèle que l'Église, le chrétien, est supposé s'aider lui-même, à exercer sa propre foi pour marcher en bonne santé. Ne vous mettez pas en colère contre moi. Amen. Mais le problème, c'est que l'Église d'aujourd'hui est devenue une Église malade. Parce que, un, l'Église n'a pas enseigné sur la guérison. Deux, où ils ont enseigné que la maladie est une vertu et que la guérison, ce n'est pas toujours la volonté. Il y a eu tellement de... Au cours des 2000 années, il y a tellement eu de choses qui sont venues dans l'Église que les chrétiens sont aussi malades que le monde. Ça n'était pas le cas, l'Église primitive. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on change, on va changer cela. On change cela. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est malade. Vous voyez, aujourd'hui, si on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, il y a la moitié de l'Église qui sera digne. Jacques, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Un cas. Pourquoi? Parce que tous, ils étaient censés s'approprier les bénédictions de Dieu. Ah, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais on doit se lever dans tout ce que Dieu nous a donné et être maintenant, au lieu d'être toujours comme des victimes, courir à droite et à gauche pour recevoir quelque chose d'autre, on doit se lever en disant, non, je marche dans mon autorité, je reçois les bénédictions de Dieu et je vais remettre le diable à sa place. Amen. Allez, c'est pour ça que vous êtes ici. Amen. Parce que vous avez un cœur qui veut sortir du lot. Parce que tout le monde voit la plupart, quand je vois beaucoup, beaucoup d'églises, beaucoup de conférences, c'est dingue, mais on voit le peuple de Dieu et on se dit, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre le peuple de Dieu et le monde. Et je ne parle pas du péché, parce que forcément, il devrait y avoir une différence, mais le peuple de Dieu est aussi malade que le monde, et aussi pauvre que le monde, et aussi perdu que le monde, aussi confus que le monde, souvent. Mais pas ici. Amen. On change les choses. Marche dans, par la foi. On vit par la foi. Amen, amen. Ok. Alléluia.